deux questions à vous poser. Vous avez évoqué l'évaluation. Ça m'a fait penser à ce qu'on a vu il y a deux mois à Malmeux, en fait, où ils avaient évalué aussi la politique. Ils nous avaient expliqué de mémoire que les indicateurs s'étaient améliorés, mais que la population n'était pas la même. En fait, c'est plus de 23% des gens qui étaient évalués au départ, qui étaient encore ceux de l'arrivée. Je veux savoir si vous aviez fait cet exercice. Et le deuxième, c'était sur le PLU, sur le document d'urbanisme. Autant sur un PDU, sur un PCAET, je vois bien ce que vous pouvez inscrire. Je veux savoir concrètement ce que vous avez mis dans le PLU ou le PLUI, peut-être avec Rennes Métropole, pour améliorer, pour intégrer la question de la santé dans ce document.
Alors, je dis que je fais partie du réseau européen des villes santé et c'est génial que vous avez eu l'occasion de les voir.
Oui, mais alors en termes d'évaluation, j'ai envie de vous dire, on est quand même très 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 débutant par rapport aux pays scandinaves. On ne dispose pas des mêmes données, et donc on est bien en difficulté là-dessus. Pour l'anecdote, quand je suis arrivée, le service santé enfance qui voit donc 4000 enfants chaque année n'avait pas de base de données. Donc il a fallu que j'y avais un Excel. Puis des cartons avec des papiers. Il a fallu que je me batte, y compris politiquement, pour que la direction des services informatiques accepte de leur mettre du access. Bon, pas encore. Voilà. Et pourquoi ça s'est passé ? C'est parce que moi, je viens de ça. Moi, j'ai été développeuse. Donc, donc ces questions-là. Et donc, en fait, il n'y avait aucun chercheur qui avait été mettre le nez, quelque part, dans toutes ces données, qui est une matière géniale, qui permettrait d'avoir des cohortes, de savoir qui sont les gens. Après, on a des données sociales, on a l'Observatoire des données sociales, la PRAS, qui nous permettent de suivre un peu la population et de voir effectivement comment elle évolue, d'avoir une politique de peuplement. On est en plein local d'habitat extrêmement ambitieux à Rennes, sur 30% d'habitat social, mais aussi du logement aidé dans tous les quartiers. On va tester le loyer unique, donc ça nous a permis aussi de suivre un peu les gens. Sur les effets sur la santé, on n'en est pas là. On en est déjà, c'est la première politique publique évaluée sur la ville de Rennes. Donc c'était déjà le fait d'évaluer une politique publique. Mais qui n'est pas une critique de Rennes, qui est quelque chose en général. On ne sait pas très bien comment faire, les données elles sont complexes. Mais on avance et on sait globalement aujourd'hui la façon dont les familles rennaises se déplacent. Et on a des bonnes idées, des parcours, quand même grâce à l'Observatoire des données sociales. Les effets sur la santé, on arrivera à mettre en place des choses, mais on n'y est pas encore. Il y a une vraie question là aussi de comment, des chaînes nationales et locales. Alors Santé publique France, François Bourdillon diront oui, on va mettre en place une grande base de données. S'ils ne la construisent pas avec les territoires, ça va être catastrophique. Ils l'ont fait au Portugal, et ils ont fait une grande base de données, ils ont dit aux territoires de les remplir. Personne ne produisait ça, enfin, c'était pas corrélable. On a déjà 55 systèmes d'information sur une ville qui ne sont pas les mêmes que sur une autre ville. Donc, en Finlande, ils ont fait l'inverse, en fait, encore sur les pays scandinaves, ils sont allés voir les villes, ils ont regardé de quoi il manquait, justement, pour évaluer, pour prendre leurs données, et ensuite, ils ont construit à base de données nationales sur une logique gagnant-gagnant. Moi, j'espère qu'on réussira à faire ça, ce qui nous permettra, effectivement, d'évaluer sur le temps long et d'évaluer les populations. Et effectivement, les gens changent, hein. On voit Malmö, mais on voit aussi Utrecht, qui est une ville de santé, où là, combien il disait, je crois que 60% de la population a une thèse. Enfin, c'est un truc... et forcément, on ne peut pas complètement se comparer. C'est des questions un peu... Enfin, c'est des questions passionnantes. J'ai des articles sur cette question de l'évaluation de la santé, notamment en Finlande, si ça vous intéresse, qui sont des questions à venir, hein, de toute façon, qui sont liées aussi à Etalab, au Smart City, et la façon dont on va les construire. Sur le PLU, je pourrais rentrer dans le thème, et Henri de la Louise va vous le présenter demain, qui est le président de l'Audiard, sur la façon dont Rennes et Rennes Métropole, ça a été l'agence urbaniste qui a vraiment piloté, avec une chargée de mission à 1000 voix, qui fait partie du réseau Airbus, la question de l'intégration de la santé dans le PLU et dans le PLUI. Le PLU, c'était déjà une chose, le PLUI, c'était encore une autre chose. Mais on a signé une convention urbaniste favorable à la santé, ville de Rennes, Rennes Métropole. Et ça a permis, hein, c'est toujours ces cadres, ça a permis qu'on intègre la santé dans le PLU et dans le PLUI. Et pas que sur la question des nuisances. Au départ, c'était sur la question des nuisances. Et sur la question protection de l'eau, protection de l'air, sol pollué. Et puis on est allé plus loin, justement sur la question de mobilité.
La communauté urbaine de Dunkerque, donc la ville de Dunkerque et puis l'homme plage, comme vous avez dit, et Grande Sainte, effectivement, sont en ville, ville santé. La communauté urbaine a intégré le réseau au départ plus sur la partie santé des populations, le volet sanitaire, sans prendre en compte le volet santé environnement. Et en fait, c'est quand j'ai assisté en 2014 au séminaire que vous avez monté, moi ça a été le levier en fait. On était deux, on était une collègue de l'agence d'urbanisme qui travaille aussi sur les problèmes de santé. Et donc on a été deux à porter la nécessité d'inclure le volet santé environnement dans les politiques publiques, mais pas simplement liées à l'habitat, parce que c'était surtout sur l'habitat, la salubrité et puis les populations, je pense notamment aux gens du voyage, enfin les populations en déplacement sur lesquelles c'était prêché, à la communauté urbaine. Et il n'y avait pas de lien forcément entre ce que faisaient les trois communes et la communauté urbaine. Donc, et justement, le levier sur lequel je me suis appuyée, c'était la volonté du président de construire un plan local d'urbanisme intercommunal. Donc, je vous rejoins, l'engagement politique était majeur. J'ai eu la chance d'avoir en vice-président à l'urbanisme également le président de l'agence d'urbanisme et président du SCOT. Donc trois casquettes pour une personne, ça a fait levier. Donc on a travaillé avec les élus d'abord, avant les services, parce qu'il y avait une réticence assez importante de modifier les pratiques et modifier les conceptions des politiques publiques. Donc on a travaillé avec les élus et avec les maires sur l'élaboration d'un projet politique de territoire autour de l'urbanisme et de la santé, donc un urbanisme favorable à la santé. Le concept n'est pas arrivé de suite parce qu'il faisait peur. Il est arrivé quand il a fallu écrire le projet d'aménagement et développement durable. Il est arrivé à ce moment-là. Donc il est arrivé 2 ans après avoir engagé la démarche politique. Et on est parti au départ des contraintes. Donc les questions de l'air, alors la pollution de l'air sur Dunkerque, elle est très importante. Elle est liée au transport, ce que vous disiez à juste titre, mais liée effectivement à la partie...
Elle est liée à la partie à la 16, donc où on a un flux de poids lourds qui viennent de l'Europe du Nord et qui vont sur Calais, notamment pour passer en Angleterre. Et c'est aussi, comme c'est une autoroute là pour le coup gratuite, c'est aussi l'occasion par ce biais-là de la remontée des poids lourds qui viennent également de l'Espagne et Portugal. Donc, et on est aussi un territoire industriel et portuaire, donc avec de fortes polluants. Et donc on est parti là-dessus. Ces questions-là, la question de l'air, on l'a travaillé avec la mise en place d'un PPA. On est parti comme ça, des contraintes. Comment les nuisances peuvent devenir, à un moment donné, des leviers pour travailler d'une façon différente et voir son territoire différent. Donc, aujourd'hui, on a développé le volet santé-environnement sur l'ensemble des thématiques des politiques publiques. Donc, en plus des outils dont vous avez fait référence dans votre PowerPoint, nous, on a également le PLH. Et le PLUI, il est sur trois volets. Il est PLUI, habitat, déplacement. PLUI, HD. Ça veut dire qu'en fait, on fait deux orientations d'aménagement et de programmation, habitat et déplacement, mobilité, pas simplement les transports en commun ou la voiture, mais également toutes les mobilités dites actives. Et j'ai proposé aux élus d'ajouter une troisième orientation d'aménagement et de programmation qui est le paysage. Et donc sur ces trois orientations-là, qui sont nos trois volets, on travaille sur des façons de concevoir l'aménagement de l'espace et de prendre en compte l'espace public comme n'étant pas une résultante de l'aménagement d'espace, mais comme un vrai bien commun. Lieu de sociabilité
et permettant également de travailler sur les déterminants de santé sociaux et environnementaux. Donc on approche aujourd'hui sur la validation de l'arrêt projet qui doit intervenir à la fin de l'année. On a engagé depuis le mois de janvier à peu près deux fois par mois. Aujourd'hui, ça s'accélère. On est à trois fois par mois des réunions publiques, grand public, avec l'ensemble des habitants. Et qui ces réunions sont venues, juste après le débat public sur le canal Seine-Nord. Et donc à chaque fois, à la surprise générale, à chaque fois, la première question qui vient de la part des habitants, c'est ma santé, mon environnement. C'est les premières questions. Alors au départ, on pensait que c'était les questions d'habitat, de où je vais habiter, où vont aller mes enfants à l'école ou autre. Non, il y a deux choses qui viennent. C'est la mobilité, comment je me déplace. C'est pas normal qu'il y ait une centralisation du réseau de bus à tel endroit et que moi qui suis, ce que vous disiez à juste titre, moi qui suis un peu éloignée des centres, je n'ai pas accès à une mobilité autre que ma voiture. Et de fait, comment moi je participe aussi à l'amélioration de ma santé à travers vos propositions d'aménagement. Voilà. Et alors, on n'est pas dans une phase d'évaluation puisqu'en fait on démarre cette approche-là. Et les conséquences, j'aimais beaucoup votre organigramme en montrant les interactions avec les directions. Au départ, on était les vilains petits canards. Honnêtement, on nous voyait arriver en disant « Ah là là, ça y est, ça va être encore le grain de sable ». Aujourd'hui, on vient nous chercher en amont. Et dans les scénarisations de projets d'aménagement, on intervient très clairement dans l'élaboration des cahiers des charges. Et on intervient sur l'adaptation des plans, des master plans au regard du bruit, au regard des pollutions et au regard des franchissements possibles. La difficulté qu'on a, et je vous rejoins complètement, c'est donc on est sur une communauté urbaine qui est linéaire, parce que le front de mer, quoi. Et donc c'est de regarder comment on peut réduire les inégalités de territoire sur une frange littorale. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai défi.
Merci de ce témoignage. On voit bien, hein, c'est des fenêtres d'opportunité et c'est effectivement personnel au dépendant, comme quoi les colloques, c'est pas mal aussi. Et Dunkerque, on en parlait pendant l'AG, un des exemples où ça a du sens que ça passe à la communauté d'agglomération parce qu'il y a un portage politique et il y a une vraie connaissance. Mais merci de ce témoignage. Je pensais aussi par rapport à l'indication, les indicateurs de volonté politique, c'est aussi vraiment important. On voit sur les PPA, il y a des territoires qu'on fait, on dit on va mettre plus de vélos, on va mettre plus de covoiturage. C'est pas des indicateurs. Dire on va mettre là sur le métro de Rennes, c'est dire 75% des Rennais sont à moins de 300 mètres d'une station de métro. Ça, c'est un vrai indicateur de politique publique. Sur les parcs, c'est pareil, c'est dire 43 mètres carrés aujourd'hui d'espace vert par habitant. Mais pas que ça. Il faut que chaque habitant rennais soit à moins de 400 mètres d'un parc. Parce qu'on sait que c'est ça. Et on peut avoir des indicateurs évaluatifs après, mais on peut aussi avoir des indicateurs, comme vous le dites, qui vont permettre d'être gagnant-gagnant, parce que ça évite de se planter dans des aménagements, parce qu'on l'a déjà fait, et qui vont correspondre aux besoins de chacun, mais qui vont être aussi suffisamment précis pour pas être dans le... Ah tiens, on va mettre... Et nous, il a fallu qu'on se batte sur le plan climat-air-énergie territorial pour que les budgets, les moyens alloués à chacune des actions soient chiffrés, parce que c'était pas du tout évident pour les services. Et mais il faut dire combien on met, sinon ça n'a pas de sens. Donc merci, parce qu'il y a aussi ce côté de concrètement comment ça se réalise et comment on le fait et comment on a des objectifs un petit peu précis et pas que on est super, quoi.
Moi, j'ai pas vraiment de questions. Je voulais juste d'abord remercier Charlotte pour son exposé. Et puis, je suis maire adjointe à la santé de Saint-Denis, et donc évidemment adhérente au réseau. Juste dire que la semaine dernière, je suis allée faire une présentation à l'Association des maires de France pour présenter le dispositif CLSM, et j'ai commencé par à peu près la même phrase que toi, Charlotte, sur la santé n'est pas une compétence des villes. Et je me suis fait reprendre en nous disant, mais si on considère que la santé doit être mise en œuvre dans toutes les politiques, il faut qu'on arrête de dire la santé n'est pas une compétence des villes. Je crois qu'il faut, qu'on arrive à avoir un discours commun, et j'ai trouvé que c'était intéressant comme remarque. Je me suis dit, bah, oui, en fait, ils ont raison. Et il y a vraiment un changement de paradigme, un changement dans la tête de tout le monde, y compris de nous, en fait, si on a envie de porter ce plaidoyer. Je crois qu'on a un rôle, nous, les élus santé des villes, à transformer la vision. Alors, pour information, je ne sais pas si c'est pareil dans toute la France, mais autour de nous, habituellement, la santé était portée par une femme, plutôt la minorité de la majorité dans les exécutifs, avec vraiment un rôle très peu important. Je crois qu'il y a un enjeu de devenir beaucoup plus stratégique. La question, est-ce que c'est au niveau des villes, est-ce que c'est au niveau des communautés d'agglo, c'est une vraie question. Bah, nous, à Saint-Denis, on est 110 000 habitants dans la ville, donc on ne voit pas trop l'intérêt de faire ça à la communauté d'agglo, sauf que c'est la communauté d'agglomération qui a les compétences aménagement, etc. Donc il y a une vraie question de la façon dont la santé est portée au niveau des villes, et vraiment à un niveau stratégique, il faut arriver à se faire entendre et avoir un discours commun. Sur la question, la santé n'est pas une politique des villes, moi c'est ce que je renvoie en général à l'ARS, qui a, elle, l'obligation de mettre en œuvre la promotion de la santé, et qui se sert surtout souvent des villes comme opérateurs, parce qu'ils n'ont pas d'opérateur direct. Donc on a un vrai sujet, est-ce qu'on revendique cette compétence, et de quelle façon on la revendique? Mais bon, je rejoins beaucoup tout ce qui a été dit, c'était très intéressant.
Merci. Oui, et on la revendique très fort. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que toutes ces femmes de la minorité, de la majorité, parlent aussi fort. Et effectivement, la stratégie qu'on va mener aujourd'hui, et ce qu'on fait, et en se rapprochant notamment à MF et France Urbaine, fera qu'on aura peut-être des élus dédiés à la santé dans les prochaines majorités. Parce que là, on peut passer, il y a un vrai risque, et donc tout ce qu'on va pouvoir pousser là en stratégie, en vision, et effectivement, à dire que c'est une compétence des villes, jouera sur les prochains.
Je voulais en fait échanger avec vous, on a un petit peu parlé tout à l'heure sur le rapport qui avait été fait au Sénat, je crois, en 2015, avec la commission d'enquête sur le coût économique de la pollution de l'air. Et je me disais, je voulais avoir un peu votre on sait quand même que voilà, la pollution de l'air, donc en France, c'est plus de 100 milliards par an, donc ce que ça coûte concrètement. Et est-ce que pour embarquer les citoyens, même au niveau des villes, concrètement, ici à Rennes, à Rennes, qu'est-ce que coûte la pollution de l'air à Rennes? Est-ce que ce ne serait pas aussi, au-delà d'une aberration sanitaire, parler de l'aberration économique, est-ce que ce ne serait pas aussi un moyen d'embarquer plus généralement les citoyens et de sortir effectivement des fois de la confidentialité de ces sujets qui sont effectivement toujours, on voit toujours à peu près les mêmes réunions, les mêmes personnes dans ce type de réunion. Donc vraiment parler de la notion du coût économique de la pollution de l'air à l'échelle des territoires pour faire prendre conscience effectivement de l'aberration économique aussi d'être sanitaire du sujet.
Alors, il y a plusieurs choses là-dessus. Moi, je suis absolument d'accord, et on va le développer sur l'outil HEAT, parce que c'est Health Economic Assessment Tool, mais qui est sur des indicateurs économiques du coût de la vie humaine, qui sont pas toujours hyper bien vécus. D'autre part, il y a un coût qui est vachement bien à redécliner au niveau infracommunal, c'est le coût sur l'entretien des bâtiments, pollution de l'air. Ça, c'est des coûts des villes. En revanche, que tout ce qu'on fait en promotion de la santé, ou on investit sur la promotion de la santé, l'argent gagné, il est gagné par l'État au niveau des caisses de sécurité sociale. Et donc, on n'a pas de dotation spécifique, effectivement, on n'a pas la compétence, c'est de la compétence générale, on n'a pas de dotation spécifique sur les questions de santé. On a des appels à projets ARS, mais là, c'est encore autre chose sur la question, le risque de saupoudrage, de faire un peu de ci, un peu de ça. En revanche, ce que j'investis en promotion de la santé, notamment sur la qualité de l'air, c'est pas de l'argent que je gagne moi. Quand on donne des chiffres, alors sur Rennes, il y a une étude INSERM, c'est 70 morts attribuables à la pollution de l'air par an. C'est énorme, hein. Enfin, si vous avez 70 morts sur la rocade en accident de voiture, tout le monde serait dans la rue. Mais cette donnée-là, qui est un truc, c'est une étude sur 10 ans, INSERM, machin, enfin un gros gros machin, c'est complètement remis en cause. Alors on nous cite avec des guillemets dans West France, hein, toujours, parce que c'est un peu notre outil de politique. Non, un peu. c'est cité. Ils prétendent que non, c'est pas on prétend, que sur la question de l'asthme, sur la question de tout ce que ça produit, c'est des arguments. Plus on les a infracommunal, de toute façon, plus ça paye, plus ça va marcher. Le coût de l'alcool, enfin c'est le coût, c'est je crois que c'est 6 000 euros par an par habitant. Ce que coûte le coût social de l'alcool en France, ça n'a pas empêché qu'on mette des pubs pour l'alcool partout. Et après, on dit, ouais, mais t'es pas drôle. Alors d'abord, j'ai pas été élue pour être drôle. C'est un moment, faut dire les choses. Et c'est des coûts sociaux. Mais c'est pas un argument, j'aimerais bien, mais je trouve que c'est pas un argument qui marche. En revanche, sur les habitants, on n'a personne à convaincre. Les habitants veulent une meilleure santé. Alors, il y a les effets Not in my backyard qui est oui, on va enlever les voitures partout, mais là, je vais pouvoir me garer, qui est un vrai sujet, mais dont parlera Sylviane Roux très bien. Il y a comprendre la pollution, comprendre comment ça marche, comprendre comment ça affecte la période périnatale. Ça marche très bien. La période périnatale, la période petite enfance, comprendre vraiment. Parce que tout ça c'est vague, on ne sait pas très bien. Et là, c'est là, je crois, où ça marche plus que le coût social. Le coût, ça devrait être pour les décideurs, mais si ça leur revient pas, de toute façon, ça marche pas. C'est donner vraiment de santé, de dire, ben, on voit bien là sur des pathologies neurologiques, la pollution de l'air, ça a des conséquences. Ça fait autre chose. Et sur des périodes très très sensibles comme la période périnatale et petite enfance. Là, ça a plus de poids. Mais on est encore sur les infrastructures encore. On est en train de faire les zones autour de chaque infrastructure structurante. Sur si on a le droit de construire à 20 mètres, à 30 mètres, à 100 mètres. La zone de protection autour des routes selon le nombre de véhicules par jour. On ne peut pas mettre d'établissements sensibles à côté. Établissements sensibles, par exemple, les terrains des gens du voyage, ça ne rentre pas dans les établissements sensibles. Alors là, ça c'est pas. On est quand même sur des questions au-delà même du coup de comment on a une vision vraiment des conséquences sur la santé des uns et des autres de la pollution. Et je continue à penser que ça sera vrai. Et je continue à penser au-delà de ça que les questions de climat pourront se traiter. Enfin, c'est pas moi, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui est très portée. Que le climat pourra être appréhendé vraiment et on pourra vraiment agir parce qu'on passera par la question de la pollution de l'air qui nous touche directement. Après le climat, c'est compliqué. Alors que là, on peut agir sur les deux en même temps.
J'avais une question, c'est un peu trivial, mais ça touche aux infrastructures et à l'économie. Vous avez parlé des voies cyclables où les gens ne veulent pas juste une bande blanche. Il y a vraiment des tas de solutions très simples et éprouvées pour faire autre chose que des bandes blanches. Dans la plupart des collectivités, c'est une question de budget. Après, il y a les prérogatives des services de la voirie par rapport à d'autres services. Je ne sais pas, c'est une question, mais quand on parlait de priorisation tout à l'heure, avant d'avoir les feux rouges qui parlent avec le véhicule autonome, est-ce qu'on ne peut pas mettre en place des voies cyclables propres pour inciter les gens à les utiliser? Du coup, ça fait moins de voitures, enfin bon. Et ces questions de priorisation-là, parce que en fait, on va dans la lune un peu des fois, mais il y a des trucs très simples. Et en plus, les entreprises qui travaillent là-dedans, elles sont souvent en déficit d'activité. Donc il y a une question de l'état des infrastructures et des choses qu'on peut y faire pour servir plein de causes, dont celle-là. Et comment est-ce que vous pouvez peser dans ces arbitrages-là, que ce soit sur les aménagements urbains, la voirie et les arbitrages budgétaires?
Ça va faire une très bonne transition. Juste un petit mot. Alors Sylviane Roux en reparlera, parce que c'est vraiment, elle est en permanence, y compris avec les commerçants, etc. Enfin, là aussi, on a besoin d'arguments. Mais moi, ce que je porte au niveau national et au nom du réseau, c'est de dire on arrête les appels à projets innovants, machin, etc. On donne des sous au kilomètre de piste cyclable sécurisée. On donne une subvention aux collectivités à chaque kilomètre de piste cyclable sécurisée. Et bien, on en aura. Parce que ça coûte très cher, en vrai, de les faire, outre toute la partie humaine, ça coûte très cher. Mais Sylviane vous répondra plus en détail sur les pistes, mais je vous rejoins.